L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Odyssée géographique. Alors cette semaine, nous allons partir en Asie du Sud-Est pour évoquer un pays dont j'ai déjà parlé au cours d'une chronique précédente qui fait assez fréquemment la une de l'actualité, mais dont on ne connaît pas suffisamment les ressorts et son histoire. Alors, le pays dont il sera question est le Myanmar, ou anciennement Birmanie, puisque au début du mois de février, la junte militaire a repris le pouvoir en main suite à des élections qui ont porté au pouvoir, enfin qui devaient porter au pouvoir la Ligue nationale pour la démocratie. La Ligue nationale pour la démocratie, ou LND, est le parti de Aung San Suu Kyi, dont je vous avais déjà parlé. D'ailleurs, suite à cette reprise en main, Aung San Suu Kyi a été emprisonné. Donc dans cette chronique, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement en Birmanie ou au Myanmar. Et surtout, je vais vous parler du poids de l'armée qui en fait est un état dans l'état et qui tire depuis bien longtemps les ficelles du pouvoir. Et enfin, dans le cadre des manifestations et de la contestation qui est en cours en Birmanie, je vous parlerai aussi de la jeunesse birmane qui mène la contestation en ce moment par des moyens assez peu utilisés habituellement en Birmanie. Birmanie, le spectre d'un retour de l'armée, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Et tout d'abord, le coup d'état du 1er février. Donc, comme je vous le disais, suite aux élections qui se sont tenues à la fin du mois de janvier, la Ligue nationale pour la démocratie, la LND, a remporté les élections. Mais rapidement, l'armée, en tout cas la junte militaire, a contesté le résultat de ces élections et le 1er février, l'armée a procédé à un véritable coup d'état. Aung San Suu Kyi, leader de la LND, a été arrêté, ainsi que plus de 150 autres personnes, militants politiques, mais personne également de la société civile. Le commandant en chef de l'armée, Min Aung Hlaing, a pris la parole, s'est présenté à la radio nationale et a expliqué l'action qui a été menée par l'armée. Donc la poignée de généraux putschistes ont justifié leur action en contestant les résultats des élections du mois de novembre. Oui, excusez-moi, je vous ai parlé de janvier, c'était le mois de novembre 2020. Alors le commandant en chef, donc Min Aung Hlaing, a promis la tenue de nouvelles élections rapidement. Mais avant cela, il a annoncé la création d'une nouvelle commission électorale. Bon, globalement, les généraux putschistes dénoncent des fraudes massives lors des élections du mois de novembre. Jusqu'à présent, ces soi-disant fraudes n'ont pas été démontrées. Alors, le commandant en chef de l'armée a déclaré que ce coup d'état, cette prise de pouvoir, était présenté comme temporaire. Et ce coup d'état, ce coup de force, ne justifiait surtout pas le retour de la dictature militaire. Ces paroles n'ont en rien rassuré la population birmane et rapidement, les rues de Rangoon ont vu déferler plusieurs centaines de milliers de manifestants. Un appel à la grève générale a été lancé. En réponse à ces manifestations, la loi martiale a été décrétée dans la ville de Mandalay, qui est la seconde ville du pays, derrière Rangoon. Un couvre-feu a également été instauré et cette fois, ce n'était pas un couvre-feu pour des raisons sanitaires, vous vous en doutez bien. Alors la junte militaire a eu un réflexe qui est finalement son vieux réflexe dans ce genre de circonstances et qui est généralement un réflexe des pouvoirs autoritaires, c'est de couper tout moyen de communication et en l'occurrence de couper l'accès à Internet. La communauté internationale a rapidement fait part de son émotion face à cette situation, que ce soit le Vatican, par le biais du pape François, l'Union européenne ou les États-Unis qui ont menacé le pouvoir birman, et donc en l'occurrence la junte militaire, de prendre des sanctions à l'égard du pays. La Chine et la Russie, selon leur habitude, ont gardé, on va dire, un certain recul, une certaine prudence, et n'ont évoqué le sujet que du bout des lèvres. Tout simplement, il s'agit pour la Russie et la Chine de faire part de pragmatisme économique, mais également de pragmatisme géopolitique. Alors, il faut savoir que depuis l'indépendance de la Birmanie en 1948, il y a eu plus de 50 ans de dictature militaire, avec ensuite une période de ce que j'appellerais une pseudo-libéralisation avec la parenthèse d'Aung San Suu Kyi, parenthèse de pseudo-libéralisation qu'il conviendrait quand même de relativiser, puisque vous savez que Aung San Suu Kyi est aujourd'hui un personnage fortement contesté. Et pour l'armée, d'une certaine façon, ce qui a justifié ce coup d'État, c'est la crainte de voir la Ligue nationale pour la démocratie gagner en influence et modifier la Constitution afin que cette Constitution et que les leviers du pouvoir soient moins favorables aux militaires. Le poids de l'armée en Birmanie. Alors comme je vous l'ai dit, le pays a été marqué par 50 ans de dictature militaire. Et d'ailleurs, lorsque l'on parle d'Aung San Suu Kyi, son père a été victime de cette dictature militaire. Alors en Birmanie, comme dans d'autres pays d'ailleurs qui sont des pouvoirs autoritaires, l'armée est un véritable état dans l'état. L'armée n'a pas que la seule vocation, on va dire, défensive, aussi bien sur le plan intérieur qu'extérieur. L'arrivée au pouvoir d'Aung San Suu Kyi avait donné un vernis de démocratie au pays, mais dans le fond, l'armée a malgré tout continué à tirer les ficelles du pouvoir. Les cadres de l'armée birmane, ils sont persuadés d'une chose, ils sont persuadés d'être les garants d'une unité nationale. Mais une unité nationale qui est plus rêvée que réellement existante. Les militaires se méfient du pouvoir civil. Ça c'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça s'est encore aggravé ces dernières années et ces derniers mois. Alors, pour votre information, les forces armées birmanes, elles ont un nom, c'est le Tatmadaw. Si vous voyez passer ce nom-là, vous saurez que en fait, ça désigne l'armée de Birmanie. Alors, les soldats de l'armée birmane, ils sont connus pour leur cruauté, et notamment dans la persécution contre les Rohingyas, qui ont fui vers le Bangladesh. Alors pour résumer le point de vue de l'armée et finalement pour résumer l'aspect messianique que s'attribue l'armée birmane, je vous cite les propos du général du commandant en chef Min Aung Hlaing qui date du mois de décembre 2020. L'armée et l'État sont des institutions nécessaires et le Tatmadaw est nécessaire au devoir de défense de l'État. Donc vous voyez que finalement pour les militaires, l'armée et l'État, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est ce qui explique en partie cette prise de pouvoir brutale du début du mois de février. Selon les militaires, en tout cas on va dire selon les cadres de l'armée, l'armée birmane doit défendre les politiques nationales, la religion bouddhiste, les traditions, les coutumes et la culture. L'armée birmane, c'est une armée qui est plutôt bien équipée, qui a acheté pas mal de matériel militaire, mais le fait d'être bien équipé ne fait pas pour autant une armée qui est efficace, puisqu'a priori l'armée birmane perd souvent des troupes et perd du terrain face aux guérillas. Et l'armée a notamment essuyé de nombreuses pertes contre les combattants de l'État de l'Arakan. Je vous le disais un peu plus tôt, les généraux putschistes sont persuadés d'être les garants de l'unité nationale. Or, en guise d'unité nationale, l'armée a été à l'origine de nombreuses périodes de répression contre des minorités, notamment dans les années 1980, 1990 et beaucoup plus près de nous, contre les Rohingyas. Alors les soldats ils sont majoritairement issus d'une ethnie, l'ethnie Bamar, qui est l'ethnie majoritaire de Birmanie. Et le fait d'appartenir à cette ethnie majoritaire, ça leur a toujours finalement donné cette impression d'être, investi d'une mission de conduite du pays. Et il faut savoir que l'armée, en tout cas, encore une fois, les cadres de l'armée, hein, sont très souvent marqués par une idéologie conservatrice, raciste et xénophobe, ce qui explique aussi en partie ses comportements violents et cette réputation de cruauté. Une mobilisation de la jeunesse. Au moment du coup d'État du 1er février, lorsque les centaines de milliers de manifestants ont commencé à envahir les rues de Rangoon, notamment, ou de Mandalay, ce qui a frappé la plupart des observateurs, c'est de voir la jeunesse de ces manifestants. Alors, c'est la jeunesse birmane qui est une jeunesse aujourd'hui connectée, branchée aux réseaux sociaux, ouverte sur le monde. Les manifestants n'ont pas hésité à se costumer en revêtant des tenues de princesse ou de super-héros. La jeunesse manifestante birmane a utilisé un symbole qui est tiré du film Hunger Games avec ce geste de trois doigts en l'air en signe de résistance. Et c'est un geste qui a déjà été utilisé lors de manifestations contre le pouvoir en place, que ce soit à Hong Kong ou en Thaïlande. La jeunesse birmane, elle est habituée à l'utilisation des réseaux sociaux. Je dis jeunesse birmane, mais je pourrais le généraliser, je veux dire la jeunesse du monde entier. Par l'utilisation des réseaux sociaux, cette jeunesse souhaite s'affranchir des carcans de la dictature militaire qui touche la Birmanie depuis si longtemps, mais également elle utilise les réseaux sociaux pour faire connaître la réalité de leur quotidien. Et aujourd'hui, ce qui est quand même particulièrement intéressant en Birmanie, c'est de voir ce que j'appellerais une forme de désobéissance civile qui commence à germer. On ne peut pas dire que ce soit encore un mouvement installé qui arrive à faire trembler les institutions, en tout cas l'institution militaire. Mais néanmoins, cette jeunesse, elle veut faire connaître ses revendications et elle montre surtout qu'elle est ouverte sur le monde. Et c'est une génération qui est beaucoup plus ouverte sur le monde que les générations précédentes. Mais ce qui est normal, c'est une génération qui a bénéficié de l'ère d'Internet et qui donc est beaucoup plus connectée au monde qui l'entoure. Je vous le disais un petit peu plus tôt, le régime militaire a eu la tentation de couper l'accès au réseau Internet. C'est un grand classique, lorsqu'il y a des émeutes, lorsque le pouvoir en place vacille, on coupe les moyens de communication. Néanmoins, cette menace, elle a été facilement contournée par les manifestants qui ont recours à des cartes SIM étrangères ou à des VPN, ce qui leur évite la censure. Ainsi s'achève cette chronique dédiée au coup d'état militaire qui a eu lieu en Birmanie le 1er février. Il sera intéressant, dans les mois qui viennent, d'observer l'évolution de la situation en Birmanie, de voir si l'armée va reprendre définitivement le pouvoir, ou est-ce que finalement la rue aura raison de ce coup d'état et pourra porter, on va dire, ses revendications démocratiques de manière légitime. Au-delà de cette question de pouvoir intrinsèque, il sera aussi très intéressant d'analyser, d'observer l'émergence de cette société civile, de cette forme de désobéissance civile, et de voir si cette société civile qui est en train de se structurer, notamment par l'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet, et par une jeunesse qui a une soif de liberté des plus légitimes, de voir si cette société civile arrive à se structurer et à devenir un véritable contre-pouvoir. Donc il est bien difficile aujourd'hui de savoir comment la situation va évoluer, mais néanmoins, moi je trouve fascinant ce mouvement porté par la jeunesse, qui pourrait être d'une certaine manière un mouvement qui est porteur d'espoir pour les années et pour les décennies à venir. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.